Rencontre spirituelle, aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux sectes. On en parle beaucoup des sectes, on en parle de plus en plus, on en a beaucoup parlé avec l'ordre du Temple solaire et puis quelques autres sectes. Et il y a tellement de sectes, c'est effrayant. Et on se demande pourquoi les gens vont vers les sectes quand il y a l'Église et puis... On se pose des questions, mais je vais essayer de répondre avec l'aide de l'abbé Pierre Descouvement qui a publié ce magnifique livre que je recommande à tout le monde, le guide des difficultés de la foi catholique aux éditions du Cerf. C'est un gros bouquin, mais ça vaut une bibliothèque. Le guide des difficultés de la foi catholique aux éditions du Cerf. Je me suis souvent servi de ce livre. Je l'ai mentionné maintes fois en onde. Je recommence encore aujourd'hui. Je vous le recommande. J'aimerais bien que l'on réfléchisse donc ensemble sur les raisons de la multiplication des sectes dans notre société ici au Québec, mais aussi dans tout l'Occident, c'est partout, et on pourrait dire que c'est même dans le monde entier. Ça se répand même en Russie, en Afrique, il y en a beaucoup, en Amérique du Sud, c'est un pullulement. C'est une catastrophe, à mon avis. Je voudrais faire une réflexion qui va prendre un peu la forme d'un examen de conscience, parce que, au fond, quand on y pense, là, les jeunes, surtout, ce sont beaucoup de jeunes de 19 à 24 ans, 25 ans, qui s'engouffrent dans les sectes, mais il n'y a pas qu'eux, il y a beaucoup de gens plus âgés. Ils s'engouffrent dans les sectes aujourd'hui parce que ils cherchent souvent ce qu'ils n'ont pas trouvé chez nous, dans l'Église catholique, l'Église de leur baptême. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé et qu'ils ont tant cherché? On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est évident que je ne saurais oublier les méthodes bien particulières de recrutement d'un grand nombre de ces groupes. Je m'excuse de mentionner mon fils qui est décédé il y a 4 ans, mais plusieurs fois, ce pauvre garçon qui n'avait pas fini sa troisième année primaire, il a été tenté d'entrer dans des sectes plusieurs fois, il rencontrait des gens, il voulait que je paie certains montants pour qu'il entre dans des sectes. Il fallait que je discute avec lui calmement, et c'était pas toujours facile. J'ai nullement l'intention de considérer l'Église, telle qu'on la connaît depuis le Concile, comme responsable de ce déferlement de sectes. Pas du tout, loin de moi cette idée. L'Église, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous le redis, je l'aime de tout mon cœur. Mais tout d'abord, on pourrait se demander, qu'est-ce que le mot « secte » veut dire? Le mot « secte » désigne un mouvement religieux dont les membres suivent, c'est une interprétation qui se fait souvent ça, suivent, ça vient du verbe latin « sequor », d'où le mot « secte ». Alors, ces membres suivent qui? Un nouveau prophète qui leur propose une certaine manière de concevoir le sens de leur vie, leur existence, puis aussi leur rapport avec Dieu. Ce sont des religions. Si étrange soit-elle, parfois. Le mot « secte » signifie aussi « coupure ». Vous savez comment on dit un sécateur, du verbe « sécare », « sectionner » si vous voulez. Donc, ça signifie une coupure d'un groupe qui se détache d'une église mère, une église plus importante, donc des groupes qui se détachent de notre église, ou d'autres grandes églises, pour former... une nouvelle église. Prenons un exemple, les adventistes du septième jour, par exemple, se sont constitués en se séparant de l'église baptiste. Ils ont donné naissance à leur tour aux témoins de Jéhovah. Puis les témoins de Jéhovah ont donné naissance aux amis de l'homme. Mais le mot « secte » évoque surtout des formes bien particulières de recrutement. Des formes très étranges d'endoctrinement, parfois, qui sont utilisées par certains groupes religieux pour augmenter, évidemment, le nombre de leurs adeptes. Et Une des particularités des sectes, c'est qu'on empêche les membres de les quitter, à moins qu'on les chasse parce que on les trouve totalement indignes. On s'arrange pour les obliger à rester, autrement ils vont aller en enfer. Ou d'autres choses de ce genre. Dans bien des sectes, c'est comme ça. Faut pas absolument généraliser, mais je vous donne grosso modo, on peut pas tout dire en l'espace d'une petite heure. J'aimerais maintenant prendre chez ce fameux auteur Jean Vermette des idées suivantes au sujet du retour des religions. Il y a une espèce de retour aux choses religieuses depuis quelques dizaines d'années. Ce retour du religieux se manifeste dans toutes les couches de la société. Ça touche une clientèle extrêmement variée, surtout les jeunes de la nouvelle vague, qui sont en quête d'un sens de la vie. Ils traînent dans les rues et se demandent pourquoi ils vivent. Ils traînent dans les corridors des universités et se demandent pourquoi ils étudient, pourquoi ils seront dentistes ou spécialistes des ordinateurs ou médecins. Pourquoi? Et des gens des classes moyennes aussi, qui sont séduits par des espèces de magiciens, un peu comme l'ordre du Temple solaire, mais aussi les espèces de gens qui sont très intelligents. J'en avais déjà interviewé un à rencontre à la télévision, qui élabore une nouvelle gnose, telle la gnose de Princeton. J'avais interviewé le principal. C'était intéressant, mais c'est étrange. J'ai pas fait ça souvent, heureusement. Puis il y a aussi le bon peuple, les gens merveilleusement simples et doux, et qui sont fortement attachés au rite de la religion dite populaire. Eux, ils sont souvent attaqués aussi. Puis il y a les marginaux, comme mon pauvre fils, nos sociétés occidentales en fabriquent en masse. Manque d'amour dans leur jeunesse, abandon, élevés dans des institutions de débiles mentaux, où on les laisse là alors qu'ils ne le sont pas. Et puis, oh, c'est tragique, je ne vais pas vous raconter la vie de mon pauvre fils. Mais ces marginaux, qu'on aime du fond de notre cœur tellement, ils sont merveilleux quand même, et qui sont en recherche d'un groupe un peu chaud, humainement, où ils sont accueillis puis reconnus tels qu'ils sont. On les considère pas comme des malades mentaux, non. On fait comme Jean Vanier, on les aime. Et c'est merveilleux dans ces groupes, dans ces sectes, l'amour qui existe, la tendresse aussi, car tout n'est pas mauvais dans ces sectes. Mais ce réveil de la pulsion religieuse qu'il y a actuellement, ça exprime souvent une remontée du paganisme, une espèce de le païen. Quand j'utilise ce mot-là, là, je veux dire que c'est l'homme religieux qui adore un autre Dieu que celui révélé dans la Bible. C'est un peu gros comme idée, mais enfin, pour se comprendre. Il serait aussi erroné d'avoir une idée que c'est une espèce de résurgence de la chrétienté. Le Dieu sans visage qui fait l'objet de certaines quêtes de différents dieux n'a rien du Dieu de Jésus-Christ. Hein. Leur Dieu est sans visage, un peu comme le Dieu de l'islam, le Dieu des Juifs, mais pas avec la profondeur de ces deux grandes religions. Toutefois, il y a là un signe des temps qui est révélateur, hein, d'une espèce de trou, d'un vide, d'un désert au cœur de l'homme contemporain, qui est toujours en quête d'un autre monde, d'un ailleurs, et puis on assiste en même temps à un déplacement du sacré dans un monde qui n'a peut-être été sécularisé qu'à un certain niveau. On parle beaucoup de la sécularisation de notre monde, mais est-il vraiment sécularisé? Il reste encore toutes sortes de choses, et ce déplacement, il me semble que c'est un bon indicateur pour des nouvelles méthodes d'annoncer l'Évangile dans le monde des jeunes et des nouvelles cultures. Espérons qu'on va réussir à trouver des méthodes vraiment qui soient beaucoup plus dynamiques que ce que l'on utilise actuellement, pour évangéliser les jeunes, pour transmettre cette figure du Christ comme étant quelqu'un de merveilleux, qu'il n'y a personne de plus merveilleux dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, il y a une déchristianisation qui n'est pas nécessairement le synonyme d'irreligion. Les gens ne sont plus chrétiens, d'accord, Mais cela ne veut pas dire qu'ils soient devenus irréligieux. Il faut avoir du respect pour ces gens-là et leur tendre la main. Il ne faut pas discuter avec eux de façon cruelle et méchante. Il ne faut pas leur fermer la porte. Il faut les convaincre petit à petit et doucement. Pour nos dispositifs pastoraux, c'est pas drôle. Hein? On peut se demander quoi faire. Nous qui sommes catholiques, savons-nous nous débrouiller devant ces gens-là? Pas exactement. Et notre pastoral, qui est dans la ligne des intuitions de ce qu'on appelait l'action catholique, puis ensuite du renouveau biblique, il y a un grand renouveau biblique dans l'Église catholique. On a fait un renouveau liturgique, un renouveau de l'enseignement de ce qu'on appelle la catéchèse, l'enseignement des vérités, de la foi. Tout ça, on a tant travaillé là-dessus. Tout ça, ça fleurit au lendemain de la guerre. J'ai vécu tout ça, j'ai tout vu ça. Puis, il y avait une grande capacité d'invention missionnaire pour l'évangélisation d'un type d'homme plus ou moins croyant dans cette société nouvelle qui était devenue sécularisée. Et puis, on avait toutes les raisons de prévoir que ce serait bientôt le modèle dominant en Occident. Mais cette façon d'agir a semblé, il me semble, moins apte à annoncer l'Évangile. L'homme et la femme néo-païens occidentaux qui... ça nous a surpris, tout ça. Ils sont souvent devenus gnostiques par surcroît. Je vous expliquerai ça. Alors, il y a des questions, des problèmes qui sont apparus. Comment révéler le Dieu de Jésus-Christ à l'homme et à la femme d'aujourd'hui? Qui se définissent, si on peut dire, explicitement par le refus de la tradition judéo-chrétienne qui m'est si chère. Quand on lit la Bible, quand on lit l'histoire de l'Église, quand on lit l'histoire des saints, quand on lit l'histoire des choses merveilleuses, simplement comme celle que je vous ai racontée hier d'Annette Desautels, mon cœur bat. Mais qu'est-ce qui est chrétien dans la gnose et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est christianisable dans le paganisme d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle communauté autre dans le christianisme offrir aux jeunes? On cherche là dans le sous-sol de l'église des Pères du Très-Saint-Sacrement. Allons-nous trouver quelque chose là? On cherche un climat mystique. On cherche une chaleur humaine. Avant que ces jeunes ne se dirigent vers les sectes, ou s'ils en sortent, qu'on puisse les accueillir avec chaleur, et avec mystique aussi, une mystique, un enthousiasme, quelle annonce promouvoir finalement pour une seconde évangélisation du Québec. C'est tout un chantier qui est ouvert. Alors il vaudra bien, tout à l'heure, nous rappeler en quoi la doctrine et la pratique des sectes diffèrent profondément de l'Évangile, parce que les caractéristiques générales des sectes, j'en donnerai quatre. Le Christ Jésus ressuscité n'est plus au centre de leur foi. On le voit bien chez les témoins de Jéhovah. Une lecture fondamentaliste de la Bible les attache à la lettre et les assèche. Puis une troisième caractéristique des sectes, c'est la conviction que le monde est radicalement mauvais. Puis finalement, la quatrième caractéristique, il me semble, ce sont des méthodes de propagande bien particulières qui sont plus ou moins à conseiller, n'est-ce pas? Alors écoutons donc quelques secondes d'un disque justement de prétendue méditation du Nouvel Âge, Beyond Body and Mind. C'est Karunesh qui a composé ça et il en est l'interprète. Alors voilà le genre de musique que l'on écoute souvent dans ces milieux, une musique rêveuse un peu, avec une aspiration à quelque chose souvent d'indéfinissable, une espèce de mood, un état, mais on ne sait pas trop. Mais les caractéristiques, je vous ai dit, des sectes, la première, hein, c'est que le Christ Jésus ressuscité n'est plus au centre de la foi. Alors même lorsque les membres d'une secte font un large usage de la Bible, c'est curieux, ils ne croient pas que Jésus est ressuscité ni qu'il est le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver tous les hommes et pour les libérer, les éclairer et leur révéler l'amour de Dieu notre Père. C'est curieux, hein, il n'est pour eux qu'un maître de sagesse dont l'enseignement doit être pris en considération, à condition d'être corrigé là, par la pensée de différents gourous. Pourtant, s'il lisait le premier chapitre de l'Évangile de Saint Jean, il verrait bien qu'il est Dieu. Saint Jean le dit bien dans ce texte admirable. Une seule exception, hein, il y a les adventistes du septième jour qui continuent à croire à la divinité du Christ, mais ils attachent surtout de l'importance aux visions d'Ellen White au siècle dernier, c'est récent. Quand le Christ va revenir, disent-ils, sur la terre pour un règne de 1000 ans, bien les justes vont ressusciter pour toujours. Puis à la fin du millénium, comme ils disent, 1000 ans, là, ce sera la destruction finale de Satan et des pécheurs impénitents. Et c'est ce qu'ils enseignent. C'est un beau rêve. Et une autre caractéristique des sectes, une lecture fondamentaliste de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une lecture littérale qui ne tient aucun compte de ce qu'on appelle le genre littéraire. Il peut y avoir des poèmes, les paraboles du Christ, c'est des histoires inventées, mais qui veulent dire quelque chose. On peut prendre ça au sens littéral. La même chose même pour le livre de Jonas, dans la Bible, etc. Alors, ils prennent ça au sens littéral suivant. Ils ne regardent pas le contexte du paragraphe. Et beaucoup de sectes se révèlent, d'ailleurs, se réfère plutôt à un nouveau livre sacré qui est composé par leur fondateur. Prenons l'exemple, le livre des Mormons. Pour Moon, le fameux Moon, le coréen, c'est les principes divins. Puis, pour les enfants de Dieu, les Children of God, là, on les a vus dans les rues de Montréal pendant un certain temps, je ne l'en ai pas vu depuis quelque temps, les lettres de Moïse David. Enfin, il y a une troisième caractéristique, je vous ai dit, c'était la conviction que le monde est radicalement mauvais. Pour eux, le monde, c'est le domaine de Satan. Et par conséquent, il ne faut pas essayer de le transformer par une activité politique quelconque. Les témoins de Jéhovah sont un peu dans ce genre-là. Il y a deux exceptions. La fameuse secte japonaise, où il y a eu des émissions à la télévision bouleversantes, c'est effrayant, cette secte, le Soka Gakkai. Et surtout la secte de Moon, on en entend souvent parler, d'origine coréenne, pour laquelle la lutte contre le communisme international, ça fait partie intégrante de leur idéal. La seule chose qui importe donc pour eux autres, c'est de vivre dans la secte puis de la propager. Et si un membre a le malheur de la quitter, il retombe dans le royaume de Satan. Alors c'est épeurant. Hors de la secte, point de salut. Alors, par contre, les membres de la secte ne risquent pas de tomber en enfer. Ils n'existent pas pour eux. C'est simple. Il n'y a pas d'enfer pour les membres de la secte. Quatrième caractéristique, c'est des méthodes de propagande bien particulières. Vous en connaissez, vous en avez été probablement l'objet. Et je m'excuse de parler de ça, mais ils ont parfois des dirigeants bien peu scrupuleux. Hein. Quelques-uns ont été jetés en prison, accusés, etc. Il y a eu des procès. Et c'est assez tragique. C'est d'ailleurs ce critère là, de la propagande étrange qui est déterminant de nos jours. Hein. S'il n'y a pas ça, on ne dira plus qu'on a affaire à une secte. On ne donne plus aujourd'hui ce nom de secte aux adventistes du septième jour, ni même aux mormons qui sont surtout à Salt Lake City, hein, dans l'Utah aux États-Unis, immense secte. Hein. On faisait ça il y a 20 ans, mais on n'ose plus dire que ce sont des sectes. Ce sont des religions, quoi. On peut pas affirmer que ce sont des escrocs de la religion non plus, parce qu'ils sont sincères et honnêtes. Si au contraire, un groupe religieux vit totalement replié sur lui-même, puis fait pression là, sur la conscience de ses membres en les empêchant de dormir régulièrement ou de penser par eux-mêmes, si ils ne rencontrent les autres que pour les endoctriner puis les convertir, on pourra bon droit les nommer sectes, il me semble. Avez-vous une idée du pullulement des sectes? C'est fantastique. Il y a une grande diversité. Il y a les sectes guérisseuses, comme la science chrétienne de Mary Baker Eddy et leur église sur Côte-des-Neiges, près de l'avenue des Pins, est à vendre. Il y a les sectes millénaristes aussi, comme les témoins de Jéhovah qui attendent le retour imminent du Messie, puis ils n'arrêtent pas de dire qu'il va venir, puis il va venir, puis là, ils changent la date. Hein? Il faut absolument lire, je vous le recommande, les témoins de Jéhovah. Entrée facile, sortie difficile, par René Roy. C'est publié chez Novalis qui publie le Prions en Église. Vous avez l'adresse dans votre Prions en Église. Les témoins de Jéhovah, entrée facile, sortie difficile, c'est excellent, et c'est préfacé par une ex-témoin de Jéhovah qui était là-dedans, je pense, pendant 14 ou 17 ans, avec son mari et ses enfants. Il y a, troisièmement, les sectes ésotériques inspirées par la sagesse d'Extrême-Orient. Hein? Vous en connaissez, le gourou Maharaji avec la mission de la lumière divine. Et puis la conscience de Krishna. Là, vous savez, ces jeunes, en général, les cheveux rasés avec des robes roses qui se promènent dans la rue. Vous savez qu'il y a beaucoup de sincérité chez ces gens-là. Moi, j'ai fréquenté le dirigeant des Krishna. Je l'ai invité chez moi. Il venait avec ses enfants habillés en petit Krishna. Et puis, finalement, ben, il s'est revenu à l'Église catholique. C'est un monsieur Bissonnette. Il y a les disciples de Sri Bhagwan aussi, puis les fidèles de Sekai Mahikari, la Sokagagai, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'Association internationale de méditation transcendantale aussi, qui fait tellement d'annonces et tout ça. Ça prétend enseigner qu'une technique de recueillement intérieur, ou qu'ils disent que ça vise à éliminer les stress de la vie moderne. Ils disent aussi que ça procure de merveilleux pouvoirs. Elle véhicule en fait quoi? Une mystique hindoue, d'absorption dans l'absolu. Alors attention à la méditation transcendantale. Il y a de bons points là-dedans. Mais pourquoi aller chercher en dehors de l'Église où il y a la méditation? Puis il y a les sectes ésotériques, davantage inspirées des sagesses occidentales. Ça véhicule des gnoses. L'anthroposophie, la fraternité blanche universelle, la nouvelle acropole, l'église de Scientologie, fondée par Hubbard, le fameux Hubbard, étrange personnage en Californie, puis l'éco-vie, les coopératives de vie écologique, etc., et le mouvement Rose-Croix. Faites attention, n'est-ce pas, s'en est plein, je ne veux pas tout vous expliquer. Puis il y a les sectes aussi qui se présentent comme ayant vocation d'appeler l'humanité à la paix, à la fraternité universelle. Oh, ça, c'est par la synthèse et le dépassement de toutes les autres religions. C'est très émouvant. J'ai reçu chez moi les dirigeants de la foi universelle Baha'i. Des gens merveilleux. Je reçois toujours leur documentation. C'est beau. Mais c'est du syncrétisme. Il y a une abolition de tout. Il y avait là un ancien franciscain qui ne croyait plus à la divinité du Christ. Il était Baha'i. Puis, il y a l'Association pour l'unification du christianisme mondial de Moon. C'est toujours des affaires de syncrétisme, c'est-à-dire d'unification de tout en rasant tout. En somme, les sectes répondent à des besoins de la nouvelle génération. Les raisons profondes qui expliquent le succès actuel des sectes, on peut se poser vraiment cette question. Comment ça se fait qu'il y a tant de gens qui se font prendre? Si dans des rapports sur le sujet, on voit bien que notre monde vit sous le signe du désenchantement. Et on peut dire que là où meurt l'espérance, ben là surgit la secte. Puis, une espérance au rabais, souvent. Hein? Oh mon Dieu, oui, c'est toujours une espérance au rabais. On est loin de Jésus-Christ. On est loin de l'Esprit-Saint. On est loin de l'Eucharistie. On est loin de Dieu notre Père et de l'amour. On est loin des saints. Et sur ce fond culturel, viennent se greffer toutes les conséquences de la crise économique. Et quand on est chômeur, qu'on vit dans l'angoisse, dans l'incertitude, on se laisse bien plus facilement tenter par la drogue puis les autres paradis artificiels. Quand on a 19, 25 ans, ah, c'est pas facile, hein? Il y a une forte concentration de demandeurs de drogue à ce moment-là. Puis c'est l'âge des entrées en secte. Parmi les facteurs socio-culturels qui favorisent le développement des sectes, il va bien falloir analyser comme il faut six besoins qu'on retrouve aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de jeunes et que j'ai vu dans le cœur de mon fils. Et que ceci, les jeunes demandent à une secte de satisfaire, puisqu'ils ne l'ont pas rencontré dans l'Église catholique, qui aurait pu, il me semble, y répondre encore mieux, puis leur apporter aussi un bonheur bien plus profond. Quand je dis l'Église, j'entends bien l'Église catholique toujours. Ah, mon Dieu, qui a tout à offrir. Pensez simplement à l'émission d'Annette Desautels, ou celle sur François-Xavier il y a quelques jours, ou toutes ces émissions que j'essaie de vous faire pour vous montrer la grandeur et la beauté de ce que l'Église catholique a à offrir. Qu'est-ce qu'on a à aller chercher ailleurs, mon Dieu? C'est typique lorsque les jeunes découvrent par la suite une communauté chrétienne très vivante, quand ils découvrent l'Arche de Jean Vanier, quand ils découvrent un vrai groupe du renouveau charismatique, vrai, là, pas des gens un peu partis, là, mais un vrai groupe de renouveau, ou une communauté chrétienne dans une paroisse qui est vraiment vivante. Ils reconnaissent, là, qu'ils trouvent surabondamment ce qu'ils avaient d'abord cherché dans une secte. Hein. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur pour le Carrefour Mont-Royal. Ah! On va y revenir tout à l'heure pour voir ce qu'est ce besoin d'absolu et comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus. Réveillons-nous, mon Dieu. Calmons-nous. Me calme un peu. On va écouter Beyond Body and Mind, cette musique du Nouvel Âge de Karunesh, compositeur et interprète. Aujourd'hui, les questions des sectes. Et j'aimerais vous dire que il y a 6 besoins chez les jeunes. 6 besoins. Il y a tout d'abord le fait que c'est le besoin d'absolu. La société contemporaine a souvent l'air de ne proposer comme idéal aux jeunes, pas tout le monde au fond, que l'augmentation de notre pouvoir d'achat, c'est le secret du bonheur. Faites vos achats de Noël et vous aurez célébré Noël. La Noël, comme on dit. La Naël, même. Mon Dieu! C'est la naissance de Jésus-Christ qu'on fête. 1997e anniversaire. Bon, en fait, il est né 4 ans avant notre ère. Ça aurait été l'année dernière qu'on aurait dû fêter ça. Mais enfin, limitons-nous au calendrier. Et c'est son anniversaire, c'est pas des farces. La société contemporaine célèbre donc Naël, comme ils disent, avec des cadeaux, puis des cadeaux, puis des achats. Ou bien des loisirs. Partez en vacances, allez aux Bermudes célébrer la venue de notre Seigneur. Allez jouer au golf. Société de consommation, c'est plate à mourir. Pas surprenant que les jeunes en soient fatigués. L'Église elle-même paraît bien souvent s'adapter d'ailleurs à cet état de choses, je m'excuse de le dire. Parce que l'Église n'est plus aussi exigeante que par le passé. Il y a des exigences, il me semble, qu'on a laissé tomber et qui sont un peu dramatiques. Il n'y a plus de jeûne eucharistique. Il n'y a plus de respect, en fait, presque, pour l'Eucharistie. J'assiste à une confirmation. On aurait pu faire une petite exposition de ce sacrement, il n'y a même pas eu de messe. Mieux que les lectures de la parole. La confirmation, puis ensuite allez-vous-en. Même pas de génuflexion devant le tabernacle qui était dans un coin, très loin. Pourquoi pas sortir une hostie, l'exposer aux enfants?
Pourquoi l'évêque en aube s'incline-t-il pas devant l'hostie? Pour montrer aux jeunes que lui, évêque, il croit, que les prêtres y croient et qu'ils adorent. Pourquoi ne pas inviter les jeunes à entourer le Saint-Sacrement et qu'ils s'approchent et qu'ils lui parlent dans des mots qui auraient été fixés d'avance, mais peut-être aussi dits par l'un d'entre eux qui parle mieux peut-être. Il y aurait toutes sortes de méthodes pour accroître la foi dans l'Eucharistie, enfin. Il y a aussi l'idée de faire des sacrifices qui est complètement dévaluée dans l'esprit des chrétiens. On leur enseigne plus ça. Mais faire des sacrifices, ça veut dire se discipliner, s'habituer à se construire, s'habituer à surgir comme des vrais êtres humains debout. Les chrétiens fument, boivent autant que les autres. Ça n'a plus aucune importance. Sans compter tous les loisirs innombrables que les chrétiens fréquentent, comme ça, dépensent des sommes folles. Ça coûte une fortune. On calcule plus, on pense plus aux pauvres. Ça nous est plus dit en chair de façon prophétique comme les prophètes de l'Ancien Testament. Enfin, je n'en ai pas entendu. Je suis sûr qu'il y a des prêtres ici et là qui prêchent comme il faut. Je suis sûr que leur peu de conviction profonde aussi chez les chrétiens. Les femmes catholiques sont aussi bien coiffées que les autres. Elles sont aussi bien teintes en toutes les teintes de blond que les autres. Toutes sortes d'artifices, de vanité, de futilité. Il y en a qui m'aimeront pas. On dit que je suis étroit d'esprit. Pourtant, l'Évangile, quand on le voit vécu chez Annette Desautels, le cœur est soulevé. C'est l'émission d'hier. Les jeunes chez lesquels n'est pas mort le désir de se donner à fond peuvent se trouver donc attirés par la simplicité de vie puis l'idéal ascétique qui est prôné par certaines sectes. Les Mormons, eux, s'abstiennent de tabac et d'alcool. D'autres sectes sont végétariennes. La plupart d'entre elles exigent de leurs membres l'abandon de leurs biens puis de leurs salaires. Il faut tout donner. Il faut éviter les futilités, les vanités, les platitudes. Avez-vous pensé que c'est probablement le même idéal de générosité qui va pousser un jeune à devenir, disons, franciscain ou membre d'un ordre exigeant ou trappiste, puis son frère qui va rejoindre une secte? C'est le même idéal de générosité? Si celui qui est entré dans une secte avait rencontré plutôt une communauté chrétienne vivant l'esprit de pauvreté, authentique, est-ce qu'il aurait suivi le même chemin que son frère? Peut-être, pourquoi pas? C'est Gilbert Cesbron que j'ai eu la chance de connaître qui disait « Hitler et Saint-Ignace de Loyola avaient compris que le grand moyen d'attirer les jeunes était de leur demander trop. » Oui, vous avez vu dans la vie de Saint-François-Xavier, il y a quelques jours, puis d'Ignace de Loyola, tout ce qu'il demandait, c'est exigeant. Ça fait surgir la sainteté, ça. Il va sans dire que cette raison n'explique pas le succès remporté par une secte qui exalte l'inceste, puis d'autres pratiques sexuelles aberrantes. Hein. Il y a peut-être là une autre façon de se dépasser dans l'horreur. Hein. Affreux, épouvantable. Les jeunes ont besoin aussi, deuxièmement, non pas simplement de besoin d'absolu, mais de besoin de vie intérieure. Hein. La société contemporaine ne semble à peu près pas favoriser l'éclosion de personnalités profondément maîtresses d'elles-mêmes, capables de calme, de recueillement, au milieu de tous les brouhahas de l'existence. On n'a jamais autant parlé de la qualité de la vie. Mais le nombre de gens stressés puis déprimés n'a jamais été aussi élevé. On voit tout le monde courir et s'agiter. On parle de week-end, alors on ne va plus à la messe. On va faire du ski. Puis les vacances s'allongent et pendant les vacances, on ne va plus à la messe. On est rendu dans des pays où il n'y a plus d'église. Combien de personnes en reviennent d'ailleurs plus fatiguées qu'elles en étaient parties? On s'énerve même à chercher comment relaxer. On en est rendu à un état insensé pour beaucoup de gens. C'est pas tout le monde qui est comme ça, faut pas généraliser. Puis l'Église catholique elle-même ne semble plus encourager autant ses fidèles à vivre une vie de silence et de recueillement. C'est pas facile d'avoir du recueillement dans une église. Il y a toujours des gens qui chuchotent, du bruit, des papiers, des sacs de papier. Ah! Les catholiques participent peut-être plus activement qu'autrefois à la liturgie, et à peine. On murmure du bout des lèvres, il faut pas chanter trop fort, hein. C'est gênant, on pourrait déranger les voisins. Mais un certain nombre se plaignent de ne plus trouver dans les offices religieux l'atmosphère de calme et de méditation d'autrefois. Il y avait quelque chose qu'on avait autrefois qui était un peu insensé, mais qui était très beau aussi. En même temps, je ne sais plus quoi penser, c'est nos messes basses, hein, qui sont toutes disparues. Bah, c'est un peu ridicule, une messe basse dans un sens. Mais c'était très intimiste. Oh, je ne sais pas quoi penser. Je n'affirme rien, je regrette d'avoir dit ce que je viens de dire. L'Église est soucieuse de voir les chrétiens s'engager davantage, heureusement, dans les luttes à mener pour faire reculer les misères et les injustices du monde. C'est merveilleux. L'Église est engagée. Hein? Elle a pu donner l'impression d'accorder moins d'importance au culte, à la vie intérieure des chrétiens. Peut-être. Et puis, il y a des prêtres qui se sont même demandé s'il fallait encore construire des églises dans les nouvelles villes. Hein? C'est ce qu'on a appelé le courant de désacralisation. Tel qu'il a pu s'exprimer dans le fameux livre de Harvey Cox, « La cité séculière », j'ai la version anglaise de « Secular City », ça date de 1965, ça c'est pas d'aujourd'hui comme vous voyez. Il dit que le chrétien devrait se présenter essentiellement comme un homme pour les autres et prendre son parti de la sécularisation du monde. Je l'avais interviewé à Marcus Vineyard au sujet surtout de son livre « La fête des fous », c'était cette théologique sur les notions de fête et de fantaisie. C'est un livre assez intéressant, publié aux éditions du Seuil. Alors voici qu'on assiste depuis quelques années à un retour en force du religieux, hein? Et après avoir été refoulé pendant toute une génération, ben Dieu revient à la une des journaux, même des grandes revues, hein? Les livres, les films aussi, qui en parlent, ont du succès. Mais que de livres étranges ont publié à ce sujet aussi. Alors les jeunes, les moins jeunes, sont donc tentés de se tourner vers des gourous qui leur enseignent les secrets de la vie intérieure, les techniques de relaxation et de méditation qui vont permettre à l'homme de ne plus vivre sans cesse en se préoccupant de lui-même, mais qui va leur permettre de vivre au fond de leur cœur, où ils vont rencontrer Dieu. Ou plus souvent, ils rencontrent simplement leur petit moi qu'ils vont gratter. Ils se deviennent de plus en plus malheureux, ne trouvant plus dans les églises de confesseurs auxquels ils puissent confier leur drame personnel dans bien des paroisses. Parce que les prêtres n'ont plus le temps, ils sont pris par tellement de choses, ils sont trop rares, nos pauvres prêtres. Ben alors ils voudraient, les jeunes ou d'autres, combler leur quête de Dieu, mais ils ne savent pas quel prêtre parler parce que le prêtre est trop occupé, puis c'est pas facile pour les prêtres. Alors ils sont à la recherche de nouveaux directeurs de conscience qui les écoutent. Oh, ils vont voir des psychologues, etc., mais aussi des gourous. Alors des gourous qui vont leur apprendre à descendre dans la zone profonde de leur âme pour y rencontrer Dieu. D'où le succès des sectes ésotériques d'inspiration hindoue, hein. Mais si vous voulez vous confesser, il y a toujours des confesseurs chez les Pères du Saint-Sacrement au métro Mont-Royal, chez les Jésuites au Jésus, métro Place des Arts, sortie Bleury. Il y en a aussi chez les Franciscains, vous n'avez qu'à sonner dans des tas d'endroits comme ça. Surtout dans les communautés religieuses, vous avez plus de chance, parce que les pauvres prêtres seuls sont bouleversés par ce qui se passe dans leur paroisse. Ils ont jusqu'à 2 et 3 paroisses maintenant. Il y a quelques années, l'abbé Pierre animait une récollection de jeunes au cours de laquelle ils avaient assez longuement prié en silence, assis en tailleur sur le tapis d'une chapelle autour du tabernacle. Autour du tabernacle. Je répète, autour du tabernacle. Et réflexion d'un participant au terme de ce temps de prière, ce jeune avait dit « Je ne savais pas que les chrétiens étaient capables de prier ainsi. Je croyais que cela n'existait que chez les hindous et dans les sectes. » Oui, hélas. L'image des chrétiens, dans une opinion bien largement répandue, c'est qu'ils sont incapables de prier longuement en silence. Pourquoi ne faisons-nous pas des actions de grâce après la messe, inviter les fidèles, ceux qui ont le temps de rester, pour faire une action de grâce en silence, légèrement inspirée par des réflexions que le prêtre pourrait faire surgir s'il a le temps? S'il est appelé ailleurs, évidemment, c'est autre chose. Mais dans bien des paroisses, comme à Notre-Dame, des neiges, où la paroisse est perdue son sacrement, il y a des vêpres après la messe, à 5 heures. 5 minutes à peu près après la messe, il y a des vêpres. On récite de très beaux psaumes, c'est très beau. Ça fait une belle action de grâce, qui n'est pas en silence peut-être, mais qui est très belle. Toutefois, il ne faudrait pas se réjouir trop vite de ce retour du sacré dans le monde contemporain, comme tout courant culturel, il comporte des dangers. Tout ça a besoin d'être évangélisé, je ne saurais le dire assez. Évangélisons, crions, comme Anna Desautels le disait hier, il faut crier l'Évangile. Les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, qui retrouvent plus facilement que leurs aînés le chemin de la prière personnelle, ils doivent veiller à ne pas tomber dans la mièvrerie sentimentale, c'est dangereux ça. Et c'est en lisant leur Bible qu'ils vont apprendre peu à peu, comme les chrétiens l'ont toujours fait, à découvrir le vrai visage de Dieu, à vivre ses exigences dans toute leur vie. Qui commence par l'Évangile de Saint-Luc, c'est facile à lire, c'est beau, puis passeront aux Actes des Apôtres pour voir ce qui s'est passé après, qui lisent quelques psaumes, qu'on leur recommande, tout ça, ça... Sinon, leur goût de la prière risque fort de dégénérer en évasion mystique, hein, dans du petit gnagnan sirupeux. Quoi qu'il en soit, l'existence des sectes rappelle aux chrétiens, qui seraient tentés de l'oublier, que l'homme est envers et contre tout un animal religieux. Et que selon le mot célèbre, que je n'ose presque plus répéter tellement on l'a entendu, le mot d'André Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Mais comme le remarque Jean Vernette dans un de ses livres, c'est « Sectes et réveil religieux » de Salvatore, publié il y a 20 ans, le droit à la vie spirituelle, à la méditation, puis au silence, à la prière, devrait être inscrit dans les premiers paragraphes de la Déclaration des droits de l'homme, particulièrement, je dirais, les droits de l'homme et de la femme québécois. Nous devrions avoir droit à ça, à la vie spirituelle, à la méditation, au silence, à la prière. Écoutons, pour nous changer les idées, un peu de, m'excuse, mais de musique du Nouvel Âge, Beyond Body and Mind, de Karunesh, compositeur et interprète. Beaucoup de gens qui rentrent dans des sectes ont besoin de communauté. Il faut qu'ils soient reçus, aimés, valorisés. Alors, qu'est-ce qui arrive dans nos paroisses? Très souvent, on essaie, le prêtre essaie tout ça avec une équipe, mais c'est pas facile. Enfin, dans les les villes, les grandes villes, les chrétiens ne se disent plus bonjour à la sortie, pas plus qu'à l'entrée. C'est chacun pour soi, Dieu pour soi. Le prêtre nous salue, mais les chrétiens entre eux ne se saluent pas. Ils ne se connaissent pas, puis c'est difficile. Si vous en saluez, ils pensent que vous voulez leur vendre de l'assurance ou que vous voulez voler leur sac à main, ou ils se demandent qui vous êtes et pourquoi vous leur parlez. C'est pas facile. Évidemment qu'il y a des communautés beaucoup plus fraternelles. Et les jeunes d'aujourd'hui, mais sont atteints de plein fouet par cet anonymat des grandes villes. Alors, ils sont beaucoup plus facilement tentés que leurs aînés d'aller chercher dans une réunion de secte l'ambiance chaleureuse et fraternelle, oui, qu'ils ne connaissent pas dans leur famille, dans leur quartier, ou à l'université. Ils vont être accueillis, là. Ils vont être écoutés, ils vont être reconnus. L'attirance des jeunes pour ces communautés chaleureuses où chacun trouve protection puis une espèce de sécurité, il me semble que ça devrait nous interpeller, nous, nos communautés chrétiennes. Mais comment faire? Je n'ai pas la solution, c'est pas facile. Il me semble que l'Église n'apparaît encore pas assez comme ce que Mgr Etchegaray a déclaré il y a 20 ans déjà. Que l'Église, c'est cette réserve de cœur dans laquelle les hommes se savent reconnus. Les femmes se savent reconnues et elles ne sont pas étiquetées, pardonnées puis aimées follement. Pourquoi qu'ils ne sont pas comme ça? Ils le sont dans bien des communautés, heureusement. Puis, il ne faut pas oublier que les sectes aussi répondent à un besoin d'identité. Les besoins de certitude aussi. Ça manque beaucoup, hein? C'est tragique. Il faudra bien revenir sur toute cette question-là le mois prochain. Il y a un document du Vatican sur les sectes qui date de mai 1986, qui concluait en ces termes. Nous ne pouvons pas être naïvement iréniques. Nous avons suffisamment analysé l'action des sectes pour voir que les attitudes et les méthodes de certaines d'entre elles peuvent détruire la personnalité. Oui, c'est le grave danger. Ça désorganise les familles puis la société. Et les doctrines des sectes sont très éloignées de l'enseignement du Christ et de son Église. Néanmoins, dit le document du Vatican, si nous voulons être fidèles à ce que nous croyons, à nos principes, qu'est-ce que c'est notre foi puis nos principes? C'est le respect de la personne humaine, le respect de la liberté religieuse, la foi dans l'action de l'Esprit-Saint œuvrant selon des principes insondables pour l'accomplissement de ce grand projet d'amour de Dieu sur toute l'humanité, sur chaque individu, homme, femme ou enfant. Eh bien, alors, nous, catholiques, nous ne pouvons pas être simplement satisfaits en condamnant, pas en combattant les sectes, il n'est pas question de ça. Ou en les voyant mises hors la loi ou expulsées, puis les individus déprogrammés contre leur gré. Il ne s'agit pas d'aller prendre quelqu'un dans une secte, le sortir de là de force, puis le déprogrammer. C'est très dangereux faire ça. Il ne faut pas faire ça. Le défi des sectes ou des nouveaux mouvements religieux doit stimuler notre propre renouveau, dit le Vatican, en faveur d'une plus grande efficacité pastorale. Or, qu'est-ce que ça veut dire en langage concret tous les jours, une plus grande efficacité pastorale? Le sait-on? En a-t-on une petite idée? Oh Seigneur, aidez-nous à mettre le feu sur la terre. Il me semble que ce serait ça l'efficacité pastorale. Du feu. Du feu. Un amour débordant, déchirant. J'y reviendrai le mois prochain, dans une autre émission sur les sectes. En attendant, je vous recommande un livre qui vient tout juste de paraître. C'est tout chaud, tout chaud. Un livre du père Richard Bergeron franciscain, « Vivre au risque des nouvelles religions », c'est paru en octobre. C'est un livre substantiel, 265 pages, bien fait, qui met les choses au point. C'est pas fait pour tout le monde, mais qui... Bien fait. Les nouvelles religions suscitent toujours peur et inquiétude dans notre milieu, dit le père Bergeron, à cause de pratiques tragiques et abusives. et les gens considèrent volontiers les nouvelles religions comme des dangers pour la personne. Mais ce volume tente de répondre avec lucidité à quelques questions fondamentales. Les nouvelles religions sont-elles un fléau social? L'État ne devrait-il pas élaborer des législations particulières? Puis quant à l'Église catholique, quelle attitude doit-elle adopter? Alors ce livre dégage les enjeux. Et la visée de ce livre, dit Père Bergeron, est d'aider les gens à devenir des citoyens pluralistes et des chrétiens ouverts aux autres croyances. Ouverts, mais approfondissant leurs propres croyances. Il y a aussi le livre plus simple, plus facile à lire, d'Yves Casgrain, qui est très connu, on le voit souvent à la télévision, n'est-ce pas, Yves Casgrain, qui a travaillé pendant plus de 8 ans comme directeur de recherche pour l'organisme InfoSecte. C'est un conférencier fort apprécié. Il a écrit « Les sectes, guide pour aider les victimes ». Yves Casgrain, c'est aux éditions L'Essentiel. Il y a des explications fort intéressantes, en particulier en page 20, sur ce que c'est qu'une secte. C'est très, très clair, hein. Il dit, pour InfoSecte, une secte, c'est un mouvement manipulateur qui exploite ses membres et leur cause des dommages, pouvant être de nature psychologique, monétaire ou physique. La secte dicte de manière absolue le comportement, les pensées ainsi que les sentiments des adeptes. Ils ont des techniques de manipulation qui sont employées afin de transformer le nouvel adhérent en un adepte loyal et obéissant, et la secte adopte un comportement trompeur et maquille la réalité afin d'attirer les nouveaux adhérents. Et puis la secte revendique un statut spécial ou un pouvoir particulier. Elle se dit détentrice d'une mission salvatrice et voit la société de manière négative ou réductrice. C'est pas très tentant d'y entrer. Il y a 2 livres aussi de Max Bouderlic. Quel étrange nom, Bouderlic. Publié par la Chronique sociale. Secte, les manipulations mentales, très intéressant, puis comprendre l'action des sectes, hein, réagir face aux sectes. C'est paru l'an dernier, en 96. C'est de Max Bouderlic, B-O-U-D-E-R-L-I-Q. Puis il y a aussi le livre de M. Campiche, Roland Campiche, ce sont des entretiens. Il parle surtout de l'ordre du temple solaire, mais il parle aussi des médias, puis de la fin du millénaire, etc. Quand les sectes affolent, c'est chez Labor et Fides. C'est intéressant, mais je vous recommande surtout encore de René Roy, l'abbé René Roy, Les témoins de Jéhovah, entrée facile, sortie difficile, chez Novalis. Il y a une préface intéressante, comme je vous ai dit. Et si vous voulez lire autre chose, dans un autre esprit, bien lisez donc « Converti et baptisé », 1500 ans après Clovis en France, mais il y a des convertis. Oui, il y a même des gens qui sont sortis des sectes et qui sont devenus carmélites en l'espace de quelques jours. C'est très intéressant. Marie Pascal qui raconte sa conversion. Alors, ce sont tous des récits de conversion. Convertis et baptisés chez Nouvelle Cité, les éditions Nouvelle Cité, qui sont dirigées par les Focolari, hein, cette groupe, communauté laïque admirable. C'est un livre de France de Lagarde. Converti et baptisé chez Nouvelle Cité. Des récits de conversion très, 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 très intéressants que je vous recommande.